Karamzine parlait français et allemand, connaissait l'anglais et l'apprenait l'italien, mais la langue française prédominait dans son œuvre. Elle joue un grand rôle dans trois ou même quatre sortes d'activités de Karamzine, dans ses traductions, ses revues. Le discours français détermine en grande partie la structure de ces revues. Dans l'élaboration des principes de la nouvelle sentimentaliste et dans sa réforme de la langue russe. C'est-à-dire que Karamzine, comme traducteur, journaliste, créateur de la prose et le réformateur de la langue russe, avait constamment recours au français. Mais le thème est très large et je voudrais me borner dans cette intervention à la sphère des traductions du français qui unit trois autres aspects de l'activité de Karamzine. Karamzine s'occupa des traductions pendant 20 ans. De 1783 jusqu'à 1802, et dans son œuvre de traducteur qui inclut plus de 300 titres, y compris les œuvres d'art ainsi que le texte critique et publiciste, environ deux tiers sont traduits du français. Dans les œuvres traduites en 9 volumes, les quatre premiers volumes sont occupés par les contes moraux et les nouvelles des écrivains français Marmontel et Genlis, puis environ la moitié de pièces qui se trouvent dans les autres cinq volumes sont traduits du français. En outre, dans la période nommée période de sa scolarité, 1786-1789, il a traduit les trois volumes du cycle de Genlis, L'éveillé du château, sous le titre Deryvenskiy Vechera, L'éveillé du village, pour la revue de Novikov, Lecture enfantine pour le cœur et la raison. Ces 13 nouvelles ne sont pas incluses dans les œuvres traduites. L'attirance pour le français et la culture française se sont renforcées après le retour de Karamzine de son voyage européen. En France, et surtout à Paris, il a découvert différents périodiques dont la structure serait utilisée dans ses revues. Karamzine structura sa première revue, le journal de Moscou, d'après le modèle des meilleurs périodiques européens. Dans l'avant-propos de la première partie, il écrivait: il y a plusieurs périodiques étrangers devant mes yeux, je n'en prendrai pas un seul pour modèle exact, mais profiterai de tous. On sait quand même que le jeune auteur préférait De Mercure, Der Neue Deutsche Merkur, édité par Wieland, et le Mercure français, dont le programme esthétique s'écartait essentiellement du classicisme orthodoxe. C'est l'influence du Mercure français qui se manifeste dans la structure du journal de Moscou, où, à côté des parties consacrées à la littérature russe et à la littérature étrangère, il y avait aussi des rubriques constantes sur les livres et sur les livres étrangers, le théâtre de Moscou et les spectacles parisiens. En général, le discours français contribuait à l'affirmation de l'éthique et de la poétique sentimentaliste. La littérature étrangère était présentée presque sans partage par les nouveaux contes moraux de Marmontel. Cet écrivain, dramaturge, encyclopédiste s'est rendu célèbre par le genre prosaïque particulier que Victor Klemperer a heureusement nommé la nouvelle larmoyante. Marmontel est au plus haut degré Karamzine lui-même, qui a apporté des changements dans sa traduction, affirmer la prédominance du sentiment spontané, de l'intuition sur le logique et le rationalisme dans la connaissance d'un homme. Les nouveaux contes moraux et demeures mentales furent complétés par d'autres exemples français de petites formes prosaïques, par exemple par Valentine Nouvelle Italienne de Florian, par l'anecdote historique de Mercier et d'autres. Ces œuvres, ainsi que la propre nouvelle de Karamzine publiée dans le journal de Moscou, La pauvre Lise, a constitué une prose novatrice dans laquelle se relâchaient les bases du rationalisme et apparaissaient les modèles d'une narration psychologique. Il est possible que les critiques théâtrales dans le discours français de ce périodique ne soient pas moins importantes que les contes moraux. Les opinions de Karamzine sur le théâtre étaient la théorisation de sa pratique vivante de la scène. Le littérateur débutant avait eu la possibilité de connaître les meilleurs théâtres de Paris pendant son séjour en France au printemps et en été 1790. Il a placé dans les rubriques le théâtre de Moscou et les spectacles parisiens 9 critiques originales et 7 contes rendus traduits du Mercure de France qu'elle a tiré de la rubrique spectacle. La structure des contes rendus de Karamzine, leur composition en 2 parties, a pris sa forme définitive sous l'influence des critiques traduites. Dans la première partie se trouvait l'analyse du matériel dramaturgique, la caractéristique générale de la position idéologique et esthétique de l'auteur, s'accompagnait en règle de l'explication détaillée de la collision principale avec ses mérites ou ses défauts. La deuxième partie, beaucoup moins grande, était consacrée à l'interprétation scénique et aux personnalités des acteurs. Les critiques originales et traduites se rassemblaient non seulement par la forme, mais aussi par la manière d'envisager les problèmes dramaturgiques. L'auteur de la plupart des articles traduits était Frameri, compositeur et littérateur qui a mis à la base de sa critique le principe émotionnel de l'appréciation. Karamzine choisissait strictement les critiques et faisant de grandes coupures, fusionnant des morceaux en mettant l'essentiel de son avis en relief. Il n'aimait pas la tragédie classique affadie et pratiquée par les épigones du XVIIIe siècle. N'apporta aucune attention aux tragédies incluses dans le répertoire des théâtres moscovites et parisiens. Le plus souvent, Karamzine discutait des particularités de la comédie sérieuse, autrement nommée comédie de caractère. Les principes de la vraisemblance psychologique exigeaient l'emploi de la langue parlée. Le langage livresque propre au théâtre classique n'était pas, selon Karamzine, adapté à la scène. Les critiques traduites sur les spectacles parisiens aidaient à argumenter cette thèse. Par exemple, le style de la pièce Jean-Jacques sur l'île de Saint-Pierre ne correspondait pas au genre dramatique, malgré sa pureté et l'agrément du style. L'auteur a transporté sans aucun changement sur la scène le langage livresque des œuvres de Rousseau, ce qui est devenu la cause de son échec. Dans le compte rendu de Frameri, traduit par Karamzine, la critique était formulée comme suit. Jean-Jacques écrivait des livres philosophiques romans, etc. Mais le style de ses œuvres n'est pas théâtral. Tout ce qui est beau dans le roman de Rousseau et enflamme l'âme devient dans une pièce très froide. Karamzine était sûrement d'accord avec cette opinion. Dans les lettres d'un voyageur russe publié dans le journal de Moscou, il a placé une description de la tragédie de Marie Chénier, Charles IX, qu'il avait vue à Paris. Elle lui a semblé très ennuyeuse parce qu'on n'agit pas, je cite, mais qu'on parle seulement sur la scène, selon l'habitude des auteurs tragiques français. Les discours sont trop longs et comblés par les sentences délabrées. Un acteur parle sans relâche et les autres bâillent d'oisivité et d'ennui. L'action principale de la tragédie est récitée et c'est pourquoi elle attendrit peu le spectateur. Charles IX est froid comme la glace. C'est ainsi que les questions de la théorie du drama, de la traduction et du fonctionnement de la langue composaient une unité indissoluble. L'édition de 3 volumes du Panthéon de la littérature étrangère en 1798 rassemble 39 œuvres. Selon l'explication de Karamzine, il voulait présenter les meilleurs auteurs étrangers, anciens et neufs, quelque chose pour les idées, autre chose pour le style. La littérature moderne était présentée par les écrivains français célèbres, Rousseau, Montesquieu, Buffon, ainsi que par des noms moins connus, Chabanon, Bouffelard et Rue de Sechel. L'intérêt pour le style des écrivains illustres s'unissait avec l'aspiration à donner des portraits littéraires de quelques-uns d'eux. L'image de Buffon comme homme savant, littérateur, apparaissait dans les mémoires traduites de Hérault de Sechel, Buffon avant la fin de sa vie. On y comparait et opposait des manières stylistiques de l'auteur de l'histoire naturelle et de Rousseau. Intéressants sont aussi des extraits du livre de Chabanon où il a donné le portrait de Voltaire. En tout, il y a dans le Panthéon 14 publications françaises, y compris des œuvres importantes comme les lettres de Rousseau à Malesherbes, les aphorismes de Montesquieu, l'article de Fontane sur Ossian, 3 fragments de l'histoire naturelle de Buffon et un extrait de livre de Barthélemy, Voyage de Jean Anacharsis en Grèce. J'ai réussi à constater qu'une dizaine d'œuvres anglaises furent traduites à l'aide d'intermédiaires français. En fait, toute l'information sur les œuvres de Mackenzie, de Bage, de Godwin, Goldsmith, fut trouvée par Karamzine dans la bibliothèque britannique éditée à Genève. 3 nouvelles de Benjamin Franklin sont tirées de l'édition française « Vie de Benjamin Franklin » écrite par lui-même, suivie de ses œuvres morales, politiques et littéraires. C'est ainsi que dans le panthéon de la littérature étrangère, le discours français prédominait aussi bien que dans le journal de Moscou. Le deuxième périodique de Karamzine, « Le messager de l'Europe », sorti pendant 2 ans jusqu'au commencement de son travail sur l'histoire de l'État de Russie en 1804. La nouvelle situation historique en Russie au début du 19e siècle a déterminé une nouvelle étape dans l'évolution de Karamzine comme journaliste, écrivain et traducteur. Le messager de l'Europe a été imaginé comme une revue d'un nouveau type, d'après le modèle européen, dont la particularité consistait en l'équilibre entre la politique et la littérature. Les deux parties, la littérature et les mélanges, et la politique, étaient remplies plus qu'à moitié par les articles traduits. Une nouvelle tendance en comparaison avec la période du journal de Moscou, s'exprimer dans le changement du rôle de traduction. Il ne servait plus à la fonction, à la fixation, pardon, des principes théoriques esthétiques du sentimentalisme. Karamzin est devenu lui-même un écrivain mûr. À présent, il voyait sa tâche de l'éditeur dans la recherche de la vérité dialectique à l'aide d'opinions opposées à propos de plusieurs questions, y compris la politique. C'est pourquoi il puisait les matériaux dans les revues et journaux de différents pays et orientations. Mais les éditions françaises et francophone jouissait d'un avantage dans son choix. C'était le Mercure de France, la Décade, le Spectateur du Nord, le magasin encyclopédique, la Bibliothèque britannique, la Nouvelle Bibliothèque des romans, le Journal des dames et des modes. L'innovation dans la pratique de Karamzin comme journaliste et traducteur consistait en mise en valeur des ressources des journaux. Et c'était le Moniteur universel, le Journal de Paris et la Gazette de France. Karamzin essayait de garder la position d'un ami de l'humanité et du bien qui contemple du côté des combats des différents partis. S'appuyant par exemple sur le discours des hommes d'État de France et autres documents officiels, il les corrigeait, commentait et réduisait leur caractère officiel par ses propres réflexions ou par des publications des journalistes allemands et anglais qui se trouvaient en opposition à la France. Avec cela, il tenait beaucoup à l'actualité de nouvelles politiques qui apparaissaient dans le messager en règle 2 ou 3 semaines après leur parution à l'étranger. Alors, la littérature étrangère était présentée comme dans le journal de Moscou, de préférence par les nouvelles françaises de Jean Lys. Une série d'articles était consacrée aux biographies des hommes illustres. Karamzin restait fidèle à son principe de l'éclaircissement de la vérité, présentait différents témoignages, parfois opposés par leur opinion, faisant heurter des points de vue des admirateurs et des adversaires d'une personne discutée. Aux conceptions de Karamzin correspondait parfaitement la forme de la comparaison de deux personnalités. De Buffon et de Rousseau, Voltaire et Lequin, parallèle de Diderot et Lafater, l'article de Chateaubriand sur Saint-Lambert et la Harpe. Karamzin était attiré par le mystère de la nature de n'importe quel homme de talent qui s'est rendu célèbre dans tel ou tel domaine de l'art, de la science ou de la politique. Il voyait la base d'un génie dans la sensibilité innée, qui ne s'associait pas seulement avec les caractéristiques positives, mais signifiait une organisation psychologique et physiologique particulière, conditionnant une nervosité et une réceptivité exacerbée. En généralisant tous les matériaux publiés dans Le Messager pendant 2 ans, on peut affirmer à bon droit que les questions de l'état des choses de France en France, de l'influence de ce pays dans le monde, suscitait le plus grand intérêt de Karamzin. Et la figure centrale, peut-être plus intéressante que tous les écrivains, philosophes, compositeurs et savants réunis, est devenue Napoléon. Il y avait beaucoup de matériaux sur ce héros dans 2 parties, littéraire et politique, de chaque numéro de la revue. Mais, alors, il ne reste plus de temps. Il faut dire que, seulement que Yuri Lotman avait le prétexte de nommer le messager de l'Europe franchement bonapartiste, mais on peut toutefois discuter ce point de vue, mais c'est une question à part. Alors, en tout, le discours français occupe une place centrale dans la revue Karamzinienne. Si dans le journal de Moscou, Karamzine l'utilise avec les discours anglais et allemands pour l'exposé de l'esthétique du sentimentalisme, dans le Messager de l'Europe, la discussion de la situation en France provoque la polémique qui est nécessaire pour la recherche de la vérité philosophique et historique. Et bref, l'emploi de la langue française dans l'œuvre de Karamzine est polyfonctionnel, ce qui est typique pour l'histoire du français en Russie à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Je vous remercie de votre attention.